Voilà, bonjour à tous. Je suis content de voir la bande de jeunes. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour cette fête des moissons, la reconnaissance. J'ai voulu qu'on commence par la lecture dans l'Apocalypse, un peuple de toute langue, de toute race, de toute tribu. Je me suis dit qu'on va être au ciel, ça sera vraiment la récolte spirituelle et de voir ce peuple immense là qui viendra pour adorer Dieu et on en fera partie et c'est quand même quelque chose de beau. Et tout ça a commencé le jour où Dieu a appelé Abraham, mais aussi le jour où Dieu a libéré son peuple de 400 ans d'esclavage en Israël. Et il va libérer son peuple pour qu'il devienne vraiment son peuple, un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple qui devait marcher dans l'obéissance avec son Dieu et qui devait avoir Dieu au centre, un peuple d'adorateurs qui était destiné à être la lumière des nations. Quand on lit l'histoire d'Israël, ça n'a pas toujours été le cas. Mais vous vous rappelez peut-être, dans le livre du Deutéronome, il va avoir des bénédictions de prononcer, mais aussi des malédictions. Et une des bénédictions, c'était justement que le peuple possédait un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Et une riche moisson était le signe de la bénédiction, de la faveur de Dieu. Mais la pauvreté des moissons était aussi un signe de jugement de Dieu. Et parfois Dieu, pour juger son peuple, faisait venir des tribus qui rasaient tous ces moissons, qui brûlaient tout. Et on trouve ça dans le livre des juges, et le peuple se trouvait dans la famine. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, et qu'on fait attention au fait que devait faire Israël, il n'y avait pas que la fête des moissons, il y avait de nombreuses fêtes. Mais c'était un peuple qui aurait dû passer son temps à être dans la joie et dans la reconnaissance. Et l'an passé, quand j'ai fait une prédication vraiment sur la fête des moissons, j'étais étonné du nombre de fêtes qu'il y a dans l'Ancien Testament. Et vraiment, oui, la joie aurait dû régner, ça aurait dû être un peu vraiment différent des autres. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas vraiment de ce genre de moisson ou de bénédiction par rapport à la moisson, par rapport à la richesse matérielle. Il serait plutôt parlé de ce que j'ai appelé la récolte des âmes. Et le plus bel exemple d'une grande moisson reste celui de la Pentecôte, où des milliers de personnes vont se tourner vers Jésus. S'il y a eu une récolte à la Pentecôte, c'est parce qu'il y a eu des graines de semer bien avant. Donc ce n'est pas une récolte, j'ai envie de dire, agricole, mais c'est une récolte spirituelle. Je voudrais juste faire la petite remarque que dans les évangiles, Jésus va souvent utiliser des images de l'agriculture pour parler de cette moisson spirituelle, pour parler de comment le royaume de Dieu avance. Et donc, finalement, on a beaucoup d'enseignements à retirer de ces moissons agricoles par rapport à l'avancement ou du comment avance le royaume de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à regarder trois textes qui vont nous montrer ce que j'ai appelé trois phases par lesquelles on doit passer pour vraiment être ouvrier avec Dieu et comprendre aussi comment cela se passe. Un passage bien connu que peut-être que mon ami Such vous l'a lu la dernière fois qu'il est venu, c'était la semaine dernière. Le premier passage, c'est dans Matthieu, chapitre 9, les versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors cette première phrase, c'est bien sûr la compassion. Et là, il y a deux petits points à voir. Déjà, c'est le fait de voir. Voir les gens qui vivent autour de nous, comme des gens perdus. Des gens qui vivent loin de Dieu. Cela ne veut pas dire avoir un fardeau écrasant sur les épaules en pensant aux gens qui se perdent, mais plutôt avoir un cœur qui est rempli d'amour pour eux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu prouve son amour envers nous en envoyant son Fils Jésus-Christ. Nous devons apprendre à voir ces personnes comme des personnes qui ne connaissent pas le salut en Jésus, mais les voir aussi comme des personnes créées à l'image de Dieu, séparées de lui par le péché, mais des personnes pour qui Jésus est mort, pour qui le sang a coulé à la croix. Et quand on commence à avoir ce genre de regard vers les personnes, on peut commencer à avoir de la compassion pour eux, de l'amour pour eux. Mais pour les voir, il faut sortir. Et par sortir, j'entends par là, il faut bien souvent aller à la rencontre de l'autre. Là, dans le texte, Jésus parcourt les villes et les villages, et c'est là qu'il voit ces foules qui le suivent. C'est sûr, on ne peut pas tous avoir un ministère itinérant comme Jésus, comme les premiers chrétiens, on est dans une autre époque, un autre contexte et tout, mais nous pouvons quand même trouver les moyens d'aller vers notre prochain et saisir les occasions que Dieu nous donne de témoigner de l'Évangile. Il y a quelques années, je me suis mis assis dans le train à côté d'un militaire et le Seigneur a permis vraiment que je puisse parler de lui. J'ai vécu une chose un peu spirituelle, un peu forte au moment-là avec ce gars, puisque quand j'ai vu ce militaire, Dieu m'a fait la révélation, il faut que tu lui donnes ta Bible. Heureusement, je me mettais assis, donc je me suis demandé ce qui se passait, et vraiment je me disais, comment je vais dire au militaire, écoute, il faut que je te donne la Bible, hein. Il va me dire, quelque chose qui ne va pas, monsieur. Ouais. Donc quand j'ai vu que c'était un bidon, je vous passe les détails, parce que j'étais à l'armée, donc j'ai engagé la conversation là-dessus et tout, et mon souci c'était, il faut vraiment que j'arrive à témoigner de cette personne. Et j'ai pu lui témoigner, j'ai pu lui donner ma Bible. Mais je prends le train régulièrement, et à chaque fois que je me mets assis, je ne suis pas obsédé par lui. Il faut que je témoigne à la personne à côté de moi. Mais s'il y a une ouverture, s'il y a quelque chose, je vais le faire. Hein. Je vais peut-être provoquer la chose en sortant ma Bible et la lire, tout ça, pour essayer de susciter un intérêt, mais aller vers l'autre et être prêt à témoigner. Voir l'autre qui est assis à côté de moi, vers qui je vais, comme quelqu'un créé à l'image de Dieu, qui ne connaît pas Jésus, mais qui a besoin de connaître Jésus pour être sauvé. Et avec mon travail, comme je suis pasteur, j'aime bien parce que quand je vais quelque part et qu'on me demande tout ce que vous faites, ben j'aime bien dire je suis pasteur. Et en général, les gens après finissent par demander mais comment on devient pasteur? Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Mais je provoque l'occasion parce que j'ai ce souci de sortir de ma petite vie de mon confort et d'aller vers l'autre, de saisir l'occasion, de mettre peut-être juste une graine de moutarde, mais je ne veux pas louper le moment de la mettre. Et un deuxième point dans cette compassion, c'est qu'il faut comprendre qu'on est dans une situation d'urgence. Plusieurs petits passages de l'Écriture nous montrent que Jésus veut nous faire prendre conscience de l'urgence d'annoncer le royaume. Laisse les morts enterrer les morts, va-t-il dire à quelqu'un qui veut le suivre, mais qui dit, voilà, je dois aller enterrer mon père. On peut être choqué par cette parole. Mais Jésus nous montre l'urgence d'annoncer le royaume de Dieu. Nous sommes dans un pays où il y a de gros besoins spirituels. Il y a de gros, une grande misère, je dirais, spirituelle, morale. Les gens sont en manque d'amour. Et un ami à moi qui est dans le ministère et qui est connu sous le nom de Fifi, m'a dit un jour, Jean-Pierre, les gens crèvent autour de nous par manque d'amour. Bon, ceux qui connaissent les filles, hein. Les gens crèvent autour de nous par manque d'amour. Vous savez, les gens cherchent le sens de la vie dans bien des directions. Ils empruntent bien des chemins en suivant des idoles qui les mènent toujours plus loin de la croix de Jésus-Christ. Amusez-vous une fois à faire une étude sur les idoles modernes. Commencez à lire des articles et des bouquins là-dessus et vous serez étonné de la vitrine que le monde peut nous présenter et qui attire bien des gens autour de nous. Comprendre qu'il y a urgence, c'est aussi prier, parce que l'évangélisation commence déjà par là. Prier que le Seigneur suscite des ouvriers dans sa moisson, mais attention, être prêt à être la réponse à sa prière, parce que le Seigneur envoie l'autre, mais l'autre, ça peut-être être moi. Comprendre, c'est être aussi un témoin fidèle du ressuscité, là où il m'a placé, dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon voisinage, dans les associations dans lesquelles je peux m'engager. J'ai travaillé pendant 6 ans au Resto du Cœur à Baccarat, donc j'étais le responsable et j'avais dû m'engager à ne pas faire de prosélytisme ni de politique. Et comme j'étais pasteur, donc les responsables au-dessus à Nancy, là, m'avaient dit, vous n'avez pas le droit de parler votre foi dans le cadre des Restos du Cœur. J'ai dit, ok. J'ai travaillé au Resto du Cœur, et comme j'ai travaillé au Resto du Cœur, mais c'était pendant les périodes des calendriers, et au porte-à-porte, je retrouvais souvent des gens à qui j'avais donné la nourriture pendant la journée, et qui me prenaient souvent le calendrier, et souvent je leur donnais, pour pas dire je profite du fait que je suis au resto. Donc j'ai pas pu témoigner ouvertement. Mais j'ai pu laisser un témoignage, parce que la personne avant avait s'amusé à piquer un petit peu la nourriture, elle la mettait dans le coffre de sa voiture plutôt que dans celle des gens. Donc les Restos du Cœur avaient une sale réputation à Baccarat. Et au bout de 6 ans que j'ai bossé, j'ai pu donner une belle image des restos. Et les gens disaient, lui en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment juste. Et je n'aimais pas faire les papiers, donc je les avais fourgués à ma collègue. J'avais dit, écoute, j'aime donner ras-le-bol de faire tes papiers. Donc j'avais donné, elle disait, moi je suis la tête et toi, tu es le cœur. Mais tous les gens qui venaient dans la salle avec leurs enfants, je m'étais obligé à prendre tous leur prénom et le prénom de leurs enfants. Pour aller les voir en leur servant le café et dire « Salut Elisabeth, comment ça va ? Et ton gamin là qui était malade autrefois, il va mieux ?» et tout ça. Je me forçais à ça pour leur montrer une chose. Votre vie m'intéresse. Et quand les gens disaient qu'ils voulaient me parler de foi et tout, je disais que dans le cadre, je ne pouvais pas, mais je pouvais venir les voir le soir chez eux. Vous voyez, quand on a ce souci d'annoncer l'Évangile, on trouve toujours des moyens d'apporter la bonne parole à l'autre. Et le Seigneur ouvre des portes. Mais il faut savoir passer dans ces portes. La deuxième phase, c'est ce que j'ai appelé la vision. Je vous invite à lire un passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. Jésus vient de discuter avec la Samaritaine. Ses apôtres sont partis au Cora faire des courses, là. Les apôtres arrivent et demandent au Seigneur, « Tu veux pas manger, là ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Et par rapport à la vision, le premier point pour moi, c'est faire attention aux priorités. Alors, il y a toujours dans ce texte un petit mystère. Interpréter l'évangile de Jean, c'est vraiment pas une tâche aisée. C'est un peu compliqué, on ne sait jamais jusqu'où on doit aller dans les images, et on cherche la structure d'un texte, tout ça, c'est pas évident. Il faut faire attention aux symboles qu'on donne aux personnes ou à ce qui se passe. Mais je me dis, les 12 apôtres, là, ils vont à 12 dans la ville pour acheter le passe-croûte. Ah, monsieur, mais pourquoi ils sont partis à 12? 2 aurait suffi, non? Mais est-ce qu'ils avaient peur d'entrer dans une ville de Samaritains, vu qu'ils ne s'aimaient pas trop et que les Samaritains, dans le langage juif, sans le Samaritain, c'était une insulte? Est-ce qu'ils voulaient faire du lèche-vitrine? Je me suis dit, si ça avait été 12 femmes, oui, c'était ça, mais là, c'est 12 hommes, pour pas les vitrines, les bonhommes. Pas enfin, moi dans les magasins de bricolage, mais... Mais est-ce que c'est Jésus qui les a envoyés tous les 12 en sachant qu'il allait rencontrer la Samaritaine? Je ne sais pas. Et par contre, quand je vois le dialogue entre eux et Jésus, eux qui se ramènent avec le casse-croûte, tout ça, et qui demandent à Jésus s'il ne veut pas manger, là... Jésus va leur montrer une chose, c'est que pour lui, la chose prioritaire, c'est l'accomplissement de la volonté de son Père. Et dans le contexte-là, accomplir la volonté du Père, c'était se révéler à cette Samaritaine en tant que Messie. C'était l'annonce de l'Évangile. Jésus ne fait pas de reproche à ses disciples. Je pense que il veut simplement leur montrer que cette annonce est prioritaire et qu'elle passe avant les besoins naturels. Même si ces derniers sont légitimes, elle passe avant les besoins naturels. Et voilà pour lui ce qui est prioritaire. Et pas de savoir si ça sera un sandwich au jambon ou au saucisson. Moi, je me suis posé une question là quand j'ai travaillé ce texte et je vous la pose. Mais qu'est-ce qui est prioritaire dans vos vies? Peut-être que pour certains, c'est la réussite sociale. Peut-être que c'est la carrière professionnelle, atteindre le plus haut degré dans son travail. Peut-être pour certains, c'est pour l'instant, la réussite dans les études. Peut-être c'est la vie de famille. On pourrait dire que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir une priorité comme la vie de famille. Peut-être que c'est d'être aimé par les autres, même si je dois me construire une fausse identité, c'est pour ça que je me bats. Peut-être en fait que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie. Ah oui, mais oh, Jean-Pierre est un petit peu provoque, là, il nous balance ses trucs. Non, moi je suis quelqu'un qui reste collé au texte biblique, parce que les apôtres, quand vous lisez l'Évangile, ben, ils nous montrent qu'est-ce qui était prioritaire pour eux. Dans la chambre haute, quelques heures avant que Jésus se fasse arrêter, ils sont en train de se disputer pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Et ça arrive plusieurs fois dans l'Évangile. Ils se font des coups de sort. Qui est le plus grand? Et avec leur culture, l'idée qu'ils avaient que Jésus va rétablir son royaume pendant qu'il est là, l'hymne d'hier, qui est connue de beaucoup d'entre nous, dit en fait, ils se battaient pour savoir qui sera le premier ministre. Après 3 ans d'enseignement et de vie avec Jésus. L'annonce de l'Évangile devrait être une de nos priorités. Nous sommes sauvés pour adorer Dieu. Nous sommes un peuple d'adorateurs, mais un peuple d'adorateurs qui est en mission. Mais dire dans le contexte, j'ai essayé de m'imaginer un petit peu la scène. Jésus demande aux apôtres de lever les yeux, de regarder les champs qui blanchissent. Mais en fait, je ne sais pas s'ils étaient assis comment, mais... S'ils sont là en train de partager le pain et tout ça, là, et qu'ils lèvent les yeux, qu'est-ce qu'ils pouvaient voir? Peut-être Peut-être qu'il pouvait voir des gens sortir de la ville de Sichar, parce que la Samaritaine a été témoignée, et on voit juste après que les gens y viennent pour entendre Jésus leur parler. Alors peut-être qu'ils ont vu au moment-là ces gens venir, et voilà, Jésus leur a montré, voilà la vraie récolte, voilà la vraie moisson, voilà la priorité. Et je me dis, des fois, il faut lever notre nez de nos préoccupations quotidiennes, parfois, pas toujours, mais parfois charnelles, pour pouvoir avoir une vision des choses qui sont spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre complètement détaché de la réalité de notre monde, hein, je ne suis pas en train de vous dire ça. Et une fois de plus, Jésus ne fait pas de reproche à ses disciples, mais il y a une sorte d'appel à voir cette moisson spirituelle qui ne dépend pas du calendrier, mais qui dépend uniquement de notre Seigneur. Il y a un temps pour les semailles, il y a un temps pour la moisson. Mais ce passage nous montrerait presque que c'est quelque part toujours le temps de la moisson, comme c'est toujours le temps de semer. Et l'apôtre Paul reprendra ça en disant, il y a celui qui sème, il y a celui qui moissonne, mais entre les deux, il y a l'action de Dieu, l'action souveraine, celle qu'on ne maîtrise pas. Et quand c'est le moment de semer, semons, mais Jésus dit aussi là, quand c'est le moment de récolter, récoltons. Et un autre point, j'aimerais dire que la vision doit rester une œuvre communautaire. Les apôtres, ils entrent dans le travail de leurs prédécesseurs. Là, ils vont récolter aussi à la Pentecôte, là où ils n'ont pas vraiment semé, pas vraiment travaillé. Mais eux vont avoir cette joie de récolter. Mais je vous rappelle, les fruits qui sont devant nous en sont la preuve. Il n'y a pas de récolte s'il n'y a pas de semaille. La récolte ne tombe pas du ciel d'un seul coup. Et j'aimerais aussi dire aussi, il n'y a pas de Robinson Crusoe dans l'évangélisation. Il n'y a personne qui travaille tout seul. Il y a toujours des gens qui ont travaillé avant, il y a nous qui travaillons, il y a ceux qui travaillent après. L'évangélisation, ça reste une sorte de chaîne. Et l'évangélisation, elle se fait avec une communauté. C'est l'Église qui est envoyée en mission. Ce n'est pas quelques personnes dans leur coin. Et l'Église a besoin de chacun de ses membres et que ses membres mettent leurs dons en pratique pour que le royaume de Dieu puisse se répandre vraiment dans le monde. Il y a ceux qui sèment, il y a ceux qui récoltent, mais la Bible à plusieurs endroits dit « Tous se réjouissent ensemble de participer à l'œuvre du Seigneur ». C'est vrai que dans notre pays c'est dur, c'est vrai qu'on sème, on ne voit peut-être pas grand-chose, mais il y a quand même des choses qui se passent. Et il est dit dans les psaumes 126, celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Vous avez remarqué que Jésus, lui, il a quand même beaucoup prêché, beaucoup enseigné, en grande partie en parabole. Il a fait des miracles extraordinaires. Hein, quand vous multipliez des pains et que 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, sont nourris, quand même, ça fait du bruit, hein, les boulangeries, hein, ils vont rire quand même, je sais pas, voilà. Mais pendant son ministère terrestre, ben, il a fait peu de disciples finalement. Par rapport à l'ampleur du travail fait, ben, je veux dire, quand même, pas eu beaucoup de disciples. On a l'impression qu'il y a les 120 à la fin de la Pentecôte, alors qu'on aurait pu s'attendre à des milliers quand même. Et je crois que la récolte a été réservée pour les apôtres. Justement, à la Pentecôte et dans le livre des Actes, là, on voit des gens se convertir par milliers. Le fruit du travail que l'on fait n'est pas toujours visible. Et on pourrait être parfois un petit peu découragé à dire on témoigne, on fait de l'évangélisation, on fait des choses, et finalement, ben, on n'est pas beaucoup, on est toujours une petite église, et on ne voit vraiment pas beaucoup de fruits, on se demande si ça marche encore l'évangile. Mais moi je crois que les fruits seront visibles, surtout au jour du jugement, où on verra cette foule rassemblée devant le Seigneur, ces gens venus de partout adorer, et qu'on en reconnaîtra beaucoup à qui on aura pu témoigner. La troisième phase, c'est la proclamation. Et là, bien sûr, c'est dans le livre des Actes. Je vous invite à lire au chapitre 2. Livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 37. Voilà, la Pentecôte a lieu, l'Esprit est tombé sur les disciples, ils sont mis à parler en langue, tout ça, il y a des gens autour qui se demandent ce qui se passe. L'apôtre Pierre vient de faire tout un discours pour montrer que ce sont les promesses de l'Ancien Testament qui se sont réalisées. Et il est dit au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rend des témoignages et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Nous devons prêcher avec assurance. Nous avons le message qui répond aux questions existentielles que se pose tout être humain. Nous avons dans l'Évangile la réponse à leurs questions. Et nous connaissons personnellement celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous connaissons le Sauveur du monde. Nous avons le plus beau et le plus vrai des messages. Mais souvent, on a la peur de l'annoncer, la peur du ridicule, la peur du qu'en dira-t-on, et parfois, ben, faut avouer, on est dans des situations où on sent qu'on devrait prendre position, mais voilà, quoi, c'est un peu délicat, tout le monde autour de la table est contre, et se moque, et c'est pas facile de dire, ben non, moi je crois et tout. C'est pas toujours évident, hein. Et on a besoin que le Seigneur nous libère de ces craintes. Mais vous savez, les apôtres aussi avaient peur, hein. Parce qu'avant la Pentecôte, dans l'évangile de Jean, ils sont enfermés dans une pièce à clé parce qu'ils avaient craint la peur des Juifs. Hein. Et après l'événement de la Pentecôte, là, Pierre a le courage de prêcher devant des milliers de personnes. Mais il sait bien que cela ne vient pas de lui parce qu'il peut très bien se rappeler que quelques temps avant, il a renié trois fois Jésus. Et il sait bien que la force qu'il a, le courage, ne vient pas de lui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui donne ce courage, cette force et cette volonté de prêcher l'Évangile. Si nous vivons ce que nous prêchons, que nous savons parler d'une manière naturelle, on sera parfois étonné de voir comment le Seigneur nous conduit vers des personnes qu'il a préparées à entendre le message. Je redis, on n'a pas à être obsédé ou terrorisé par l'idée « je dois témoigner ». Mais on doit être, je crois, attentif à ce que l'Esprit nous dit. On doit avoir les yeux et les oreilles ouverts. On doit toujours être prêt à rendre témoignage de l'espérance qui est en nous, sans crainte. Parce que même si au départ les gens peuvent rire et se moquer, nous avons la vérité. Nous avons le message qui peut transformer leur vie. Et quand on témoigne, rappelons-nous de cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse, elle est donnée quand Jésus envoie ses apôtres en mission. Hein, c'est un verset qu'on retrouve assez souvent chez les gens. Hein. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais dans le contexte, elle est même donnée à des gens qui vont aller en mission. L'autre petit point, je dirais, nous devons croire à la puissance de l'Évangile. Non seulement l'Évangile est la vérité que les gens doivent et ont le droit d'entendre, mais il est aussi une puissance qui transforme la vie de ceux qui l'acceptent. Pierre n'a pas eu peur le jour de la Pentecôte de prêcher à la foule. Le résultat a été 3000 personnes qui se convertissent. Je me suis dit, quand même, hein, quelle moisson, hein. 3000 personnes qui se convertissent. Je me suis dit que même Pierre a peut-être été surpris. Hein, vous êtes sûr là de ce que vous faites, là, c'est pas possible. C'est pas parce que dans notre pays on ne voit pas de résultats spectaculaires que l'Évangile a perdu de sa puissance. Mes collègues évangélistes, que ce soit à France Évangélisation, les gens que je connais dans l'implantation d'églises, que ce soit des gens de France Mission, France pour Christ, tout ça, sont tous d'accord pour dire une chose. Je suis content qu'il y ait des jeunes avec nous. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a une génération de jeunes qui se lèvent, qui ont soif de mieux connaître l'Évangile et qui ont vraiment à cœur de le partager. PlayStation, Bouche ta ville, Agapé, City Station, OM, Jeunesse en mission, même proclame. Des milliers de jeunes, chaque année, s'engagent dans des camps d'évangélisation, dans des colos, pour annoncer la bonne nouvelle. Nous, les plus anciens, nous avons semé, nous aurons certainement la joie de voir cette bande de jeunes récolter. Mais on veut se réjouir ensemble. Et cela est possible parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Personnellement, même si je ne vois pas beaucoup de résultats de conversion dans mon travail, parce qu'il y a de telles promesses dans l'Écriture, je veux continuer à semer parce que si on ne sème pas, il n'y aura jamais de récolte. Et il faut vraiment qu'on persévère, qu'on croit que l'Évangile est la réponse. Il est la puissance de Dieu pour le salut des gens. C'est l'Évangile qu'ils doivent entendre et absolument rien d'autre. Nous avons ce trésor en nous et nous devons le partager. J'aimerais conclure en disant, ayons confiance que le Seigneur veut nous utiliser et qu'il nous utilise là où nous sommes. Et on est parfois étonné dans des témoignages de baptême et tout, de voir quelles sont les personnes qui ont eu de l'influence sur quelqu'un et que là, les personnes ne sont même pas au courant que leur vie les a marquées. Je suis en train de suivre deux jeunes pour la préparation au mariage et il y a une question dedans, quelles sont les personnes qui t'ont vraiment influencé dans ta vie? Un jeune m'a désigné une personne, mais il a dit, mais lui, il n'est même pas au courant de l'influence qu'il a eue sur ma vie. Il a dit l'exemple de sa vie, sa consécration et tout, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours encouragé. Mais il m'a dit, il ne le sait même pas, j'en ai jamais parlé avec lui. Alors quand vous connaissez les deux personnes, c'est rigolo, mais voyez, Dieu nous utilise des fois, on ne le sait même pas. Ayons confiance que même dans notre pays, où c'est la misère spirituelle, notre pays, dire qu'il y en a qui ont dit que notre pays c'était le cimetière des missionnaires. Eh bien, dans notre pays, croyez-moi, il y a des gens qui ont soif de l'Évangile. Et surtout, qui ont besoin de l'Évangile. Qu'ils le sachent ou pas, ils ont besoin de l'Évangile. J'ai fait des milliers de portes, je pense, hein, depuis le début de mon ministère, je pense pas dire de mensonge en disant, j'ai tapé des milliers de portes et pas qu'à la Cara. Combien de fois j'ai entendu des gens dire ça ne m'intéresse pas. Et combien des fois j'ai répondu c'est dommage parce que ça vous concerne. Ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, ils en ont besoin d'évangile. Parfois, ils ont une soif spirituelle, mais ne savent pas où chercher. C'est pour ça que tout ce qui est dans le nouvel âge, occultisme et tout, se développe tellement. Et nous, on connaît celui qui est la source d'eau vive, et on peut les amener. On devrait être des Jean-Baptiste pour ces gens, des gens qui leur montrent, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ayons foi que ce que nous semons portera du fruit pour que notre Dieu soit glorifié. Amen.